Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi sur les ondes, Marie-Madeleine Kölsch, chargée de mission aux droits des femmes et de l'égalité au département de la Drôme, qui va nous parler de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars et qui donnera l'occasion à un certain nombre de manifestations d'avoir lieu. Marie-Madeleine Kölsch, bonjour.
Bonjour.
Alors tout simplement, est-ce que vous pourriez nous parler de cette journée internationale des femmes et peut-être de sa genèse, d'où vient-elle et à quoi elle sert en fait?
Bien sûr. Tout d'abord, merci effectivement de m'accueillir pour parler de cette journée internationale des droits des femmes. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que une journée, c'est déjà ça, mais bien sûr que ce n'est pas assez. Cette année, ce que nous mettons en avant particulièrement, c'est que le 8 mars, c'est toute l'année. Et on y reviendra certainement. Pour répondre à votre question, en fait... Un bref historique pour rappeler que cette journée a été officialisée en 1977 par les Nations Unies et que son objectif était de faire prendre conscience et de réfléchir aux conditions de vie faites aux femmes dans le monde entier. Alors pourquoi la date du 8 mars? En fait, il faut aussi remonter un peu plus loin et cette journée internationale, à l'époque la journée internationale de la femme, nous vient de la conférence internationale des femmes socialistes qui s'était déroulée donc en 1910 à Copenhague. Et puis donc ceci a évolué. Dans les années 70, le 8 mars a été repris par le MLF, le mouvement de libération des femmes donc en France. Et tout de suite, là, l'accent a été mis sur une dépolitisation, puisqu'on était vraiment donc sur un parcours, on va dire, d'une journée politique, une dépolitisation de la journée, et plutôt de la centrer sur le combat des femmes pour de meilleures conditions, alors que ce soit de vie sociale, de vie au travail, et à l'époque particulièrement, ça concernait la libération des mœurs et l'acquisition des droits sexuels. L'évolution fait que en 77, les Nations Unies adoptent la résolution qui va inviter l'ensemble des pays à réfléchir sur donc une journée de célébration des droits des femmes. Et la date est retenue comme étant le 8 mars. Alors, et si on revient en France, en fait, c'est en 1982, Yvette Roudy, donc qui est à l'époque ministre chargée des droits des femmes, qui décide de célébrer la journée officielle, donc pour le 8 mars, et donc chaque année depuis, nous la célébrons, on va dire, en France, en sachant que c'est vrai que la première année, alors ça a été quelque chose de formidable. Après, ben, suivant les années, puis suivant les actualités, c'est vrai que le 8 mars prend plus ou moins d'ampleur. Voilà, alors je ne sais pas si du coup j'ai répondu à votre curiosité sur l'historique de cette journée, mais voilà un peu le parcours de cette affaire.
Alors, pratiquement tous les jours de l'année, je suppose, il y a une journée de je ne sais quoi, de militance pour je ne sais quoi, de défense des droits de je ne sais quel parti ou autre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est efficace, par exemple, cette journée internationale des droits des femmes? Est-ce que vous avez l'impression que ça fait partie d'un mouvement d'émancipation des femmes et que ça fonctionne?
Alors, je répondrai en deux temps. Tout d'abord, sur la journée, pour une journée droits des femmes. Il est évident, et je l'ai dit en introduction, que une journée, ce n'est pas assez. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'était le titre que les collectives sur DIE avaient repris pour la manifestation. Une journée, ce n'est pas assez. Il est évident que c'est toute l'année qu'il faut faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'il faut faire respecter et mettre en place les droits des femmes. J'ai envie de dire d'autant plus que il s'agit bien d'une journée internationale et que les conditions faites aux femmes dans les pays sont différentes d'un pays à l'autre et que dans certains pays, quand on parle de violences faites aux femmes, on parle de violences physiques, réelles et quotidiennes par des troupes armées. Enfin, vous voyez, c'est en fait, suivant le pays dont on parle, on a quand même un regard différent sur le droit des femmes. Les droits des femmes signifient des choses, ont une autre réalité. Ça, c'est une première chose. Donc après, dire journée internationale des droits des femmes, est-ce que oui ou non, il faut maintenir ce genre de choses? Moi, je dirais oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que oui, bien sûr, parce qu'au moins, une fois par an, j'ai envie de dire, ça permet de... Et d'ailleurs, c'était l'objectif des Nations Unies lorsque ça a été mis en place, c'était de prendre conscience et de réfléchir aux conditions faites aux femmes. Donc c'est vraiment aussi le moment de faire un bilan sur est-ce que oui, ça progresse, est-ce que non, au contraire, on a perdu du terrain sur tel droit, telle liberté. Et ça permet donc au moins, je dirais, de façon emblématique, de marquer un jour. Par contre, et bien sûr que ça n'empêche pas d'avoir en vigilance quotidienne et journalière l'égalité et le droit des femmes. Voilà. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez comme réponse? En tout cas, oui, il faut maintenir cette journée parce que c'est aussi l'occasion pour des tas de personnes, des tas d'associations, des tas de structures, en fait, qui n'y pensent pas forcément toute l'année, eh bien c'est là, c'est l'occasion de mettre en avant, en fait, de mettre à l'honneur, de pointer des actions qui sont en direction de l'égalité et des droits des femmes.
Oui, pour vous rassurer, tout à fait, vous avez répondu à ma question, de savoir la pertinence et l'efficacité de ce genre de journée. Et donc oui, parce que effectivement, là, je rebondis un peu sur des chiffres que j'ai lus la semaine dernière qui m'ont un peu fait frémir. Apparemment, il faudrait aux femmes 49 jours de travail de plus pour arriver au même salaire. Donc même en France, il y a, je suppose, encore beaucoup de travail pour en arriver à une véritable égalité entre les hommes et les femmes.
Merci. Alors, vous abordez le sujet de l'égalité professionnelle et de l'égalité salariale. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque effectivement, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'a été mis en place ce qu'on appelle le Equal Pay Day, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes auraient à travailler jusqu'au 5 mars pour pouvoir effectivement avoir, enfin, si, à salaire équivalent, si vous voulez, les femmes devraient travailler plus pour pouvoir effectivement avoir le même salaire. Et on constate en France, et là je parle de nous, je parle des auditrices qui nous écoutent, il y a une différence de salaire, une différence salariale de pratiquement 20%. Et ceci, quels que soient les métiers, suivant les responsabilités, le pourcentage se différencie, mais il y a toujours et en moyenne donc ce pourcentage de 20% d'écart salarial en France entre les hommes et les femmes. Vous comprenez bien que c'est quand même assez inadmissible et qu'effectivement on a lieu de travailler pour réduire cet écart salarial. Je voudrais revenir tout à l'heure sur la journée du 8 mars. En fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette préoccupation quotidienne, elle est tellement vraie qu'aujourd'hui, le mot d'ordre qui est lancé par le service droits des femmes, c'est le 8 mars, c'est toute l'année. Et justement, pour illustrer le 8 mars, c'est toute l'année, un calendrier, donc 365 jours, avec 365 actions, 365 donc manifestations repérées sur l'ensemble du territoire pour dire oui, il se passe toujours quelque chose en France par rapport aux droits des femmes et on a cette préoccupation permanente. Alors, pour la Drôme, bien sûr que c'est difficile d'arriver à repérer 365 actions sur l'ensemble de l'année, mais n'empêche qu'un certain nombre de choses se font tous les jours et de façon sérieuse dans notre département.
Alors bon, si on en est arrivé à ce genre de considération, peut-être au moins pour nous qui sommes d'Iowa, parler de ce qui est prévu à Dix le 8 mars, peut-être.
Oui, très volontiers. Alors, les habitants du Diwa et les habitantes du Diwaz maintenant sont certainement familiarisés avec le groupe Les Collectives. Les Collectives qui portent vraiment de façon très affirmée la volonté de faire en sorte que sur le Diwa, les habitantes, les femmes, aient des moments d'expression et la possibilité de se rencontrer, de travailler pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes. À Dix, donc, nous aurons à la salle Jean Reynaud, donc, dès 19h, et le vendredi 8 mars. Alors, c'est le vendredi 8 qui a été choisi. Je dis ça parce que sur le département, en fait, un certain nombre d'actions se déroulent, bah, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, dès aujourd'hui. Donc, le vendredi 8 mars, une exposition est scène ouverte, donc, à la salle Joseph Reynaud. Alors, en deux temps, de 14h à 19h, en fait, c'est plutôt un moment où les femmes vont être là pour créer, pour être entre elles, pour travailler sur les rencontres. Et puis, dans un deuxième temps, à 19h, donc là, l'entrée est ouverte à tous et à toutes. Et donc, avec la présentation des ateliers de l'après-midi, la présentation du groupe des collectives, et puis ensuite, donc à 20h30, la scène ouverte avec des chants, des danses, des textes, des paroles et des mouvements de femmes. Voilà. L'entrée, bien sûr, est ouverte à tous et libre de participation.
Donc, salle Joseph Reynaud, de 14 à 22h, le vendredi 8 mars.
Voilà. J'insiste sur le fait que l'ouverture, l'inscription est possible donc dès 14h pour participer aux ateliers de création, d'expression. Et après, à partir de 19h, c'est une entrée libre pour tout le monde.
Pour les femmes ou pour tout le monde ?
Alors, l'après-midi est réservé aux femmes. À partir de 19h, l'entrée est tout public.
Donc même des hommes peuvent participer.
Bien sûr. Alors, et c'est important ce que vous dites, parce que il faut bien voir une chose, c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes n'avancera que avec les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas qu'une histoire de femmes. Il faut arrêter avec ça. Bien sûr que les hommes peuvent participer et ont un rôle important à faire et à montrer dans l'acquisition et dans le respect des droits des femmes. Et je voulais aussi revenir tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur les salaires différents hommes-femmes. Alors, il faut aussi dire ici que les droits des femmes, c'est dans des secteurs très variés. Des secteurs très variés qui concernent aussi bien le travail, et donc là on l'a illustré avec faire avancer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et quand on dit l'égalité professionnelle, c'est le respect de l'égalité salariale, mais c'est aussi la possibilité d'accéder à des responsabilités, la responsabilité de carrière, c'est la possibilité de choisir de façon la plus large possible sa carrière professionnelle et son secteur professionnel. On dit, hein, les métiers typiquement traditionnellement masculins, etc., où on ne trouve pas de femmes. Aujourd'hui, il y a des métiers qui ne sont pas mixtes, on le sait, aussi bien d'ailleurs trop féminin que trop masculin. Donc on a cette affaire-là dont il faut tenir compte. Il y a aussi tout l'accès des femmes aux responsabilités politiques, à parité politique. On voit bien que là, c'est par la loi qu'on a réussi à faire avancer la place des femmes dans les responsabilités politiques. Il y a aussi tout ce qui concerne le respect de la dignité humaine. Et là, on est sur, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, les droits par rapport aux violences faites aux femmes. Comment faire pour qu'effectivement cette tyrannie, cette parfois barbarie masculine cesse, en tout cas régresse largement. Dernier aspect, mais ça, c'est quelque chose qui fait tilt maintenant de plus en plus chez les jeunes filles et les jeunes femmes, c'est comment arriver à organiser son temps entre la vie privée, la vie personnelle et la vie familiale quand on a charge de famille. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose, enfin, quand on s'intéresse aux droits des femmes, on s'intéresse en fait à la vie quotidienne et à chaque moment de la journée.
Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avions fait un sujet pour sensibiliser la population sur le douloureux problème des violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance dans ce domaine ? Et y a-t-il des propositions concrètes pour aider les femmes qui seraient sujettes à ce genre de situation vitale très difficile ?
Merci de rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, les violences faites aux femmes sont vraiment quelque chose d'inadmissible. Et malheureusement, que ce soit sur la Drôme, que ce soit donc sur le territoire du Diois, on n'est pas différent d'autres départements en France, c'est-à-dire qu'on retrouve ce type de violence dans toutes les sphères, que ce soit socio-professionnelles, donc la violence ne s'arrête pas, je dirais, derrière une étiquette sociale. Ça, c'est une première chose. Il y a véritablement des choses qui ont quand même pu être mises en place et qui avancent, puisque maintenant, depuis 2 ans, il y a une permanence de soutien psychologique qui est proposée aux femmes. Cette permanence de soutien psychologique, donc, c'est 2 vendredis par mois, la possibilité pour une femme qui aurait besoin de dire, et puis pas tout de suite, parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme qui est victime de violences conjugales, quand elle est dans la démarche de dénoncer, elle peut, aller dans une gendarmerie, dans n'importe quelle gendarmerie d'ailleurs, hein, puisque là, les officiers de police et de gendarmerie sont là pour accueillir cette parole et pour pouvoir effectivement donc la prendre en compte. Mais il y a des femmes qui n'ont pas tout de suite cette démarche-là, c'est-à-dire que dans un premier temps, elles préfèrent vérifier que c'est bien vers cet ultimatum, en fait, hein, qu'on va, mais que dans un premier temps, elles veulent d'abord avoir un accompagnement, un soutien psychologique. Ce soutien psychologique n'existait pas sur le DIWA. Aujourd'hui, il existe, et donc ces femmes peuvent trouver une première réponse, quitte après ou non, à engager une démarche, alors de quitter le domicile conjugal, etc. Mais voyez, c'est très important de dire aux femmes donc qui sont sur le territoire du DIWA qu'il y a une permanence donc qui est faite pour elles, et donc de soutien psychologique. L'autre chose que je voulais aussi dire, parce que ça a été mis en place aussi sous l'impulsion du sous-préfet de Guy, c'est un encart spécifique, refuser les violences conjugales. Il y a maintenant, lorsque les violences faites aux femmes avaient été déclarées grande cause nationale, nous avions édité sur le département un dépliant qui s'appelle Refuser les violences conjugales. Un petit memento qui permet, un memento, pas petit, un petit par la taille, qui permettait immédiatement de savoir que faire dans les situations de violences conjugales et de souhait de quitter le domicile. Nous avons complété ce document départemental par un encart qui ne concerne que l'arrondissement de Die et qui détaille de façon très précise les permanences, les horaires, les modalités pour avoir accès alors à l'assistance sociale, à un rendez-vous avec assistance sociale, voyez, de façon à ce que les femmes puissent immédiatement trouver la réponse concrète à leur situation. Si j'habite à Luz, la Croix-Haute, où est-ce que je dois aller et quel soutien je peux avoir, à quelle heure et où et comment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement un outil très concret destiné aux femmes qui, de façon à ce qu'elles aient pas à chercher cette information-là en plus.
Justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler les coordonnées de cette permanence de soutien aux femmes victimes de violences et où est-ce que ça se passe?
Oui, tout à fait. Alors, les permanences à 10. Donc, il s'agit bien là d'une permanence qui est tenue par le CIDFF de la Drôme. Et j'ai envie de dire que ce qui est intéressant, c'est que cette permanence, vous y trouverez et en même temps donc un soutien psychologique et en même temps donc des informations sur les droits. Et donc, cette permanence, qui est différente de la première, est tenue par une juriste. Hein. Donc, ces permanences ont lieu à l'espace social, donc social et culturel du DIWA. Et c'est le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois, de 9h30 à 12h30. Je précise que ces permanences se font sans rendez-vous. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à venir. Alors, si les personnes le souhaitent, elles peuvent aussi prendre rendez-vous par téléphone au siège social pour déjà, je dirais, avoir un premier contact. Mais la permanence, le deuxième et le quatrième vendredi, 9h30, 12h30, se fait sans rendez-vous.
Vous avez parlé d'un organisme qui donne des conseils. Mais alors, on a parlé de cette permanence, mais y a-t-il un organisme centralisateur où les femmes peuvent se présenter pour avoir réponse à telle ou telle question dans tous les domaines qui les interrogent?
Alors, votre question est un petit peu difficile. En fait, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que en dehors des services, je dirais classiques, qui sont les services de l'État, qui sont les services municipaux, qui sont là aussi donc pour apporter, je dirais, une première réponse hein, dans les situations donc que peuvent rencontrer les femmes. Ce que moi j'ai noté et que je trouve très très intéressant, c'est depuis maintenant 3 ans, ce groupe. Donc, d'ailleurs, c'est pas un groupe, elles se sont appelées les collectives. Qui, effectivement, sur Die, souhaite avoir une réflexion en profondeur sur la place des femmes dans le DIWA. Alors, une fois qu'on a dit ça, ces collectives, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'autour de la table, on a aussi bien des services de l'État, on a des institutions, on a des personnes qui sont là parce qu'elles sont intéressées par le sujet, on a des associations, vous voyez, un certain nombre et de professionnels et de personnes bénévoles qui sont là parce qu'elles sont intéressées par la place des femmes dans le DIWA. Ça, c'est une première chose. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette réunion de personnes, c'est que, du coup, ça fait véritablement un dynamisme local sur lequel moi je peux m'appuyer. Et c'est vrai que la mission aux droits des femmes donc de la Drôme appuie et soutient cette action donc et ces collectifs dans leur démarche d'affirmer une place sérieuse et réelle des femmes sur le diwa.
Marie-Madeleine Kölsch, est-ce que, à votre avis, concernant l'évolution des droits des femmes, y aurait-il un axe particulier sur lequel il faudrait être plus attentif ?
Oui, merci de me poser cette question parce que vraiment, je crois que toutes nos actions aujourd'hui, toute notre société est bâtie quand même autour des images, des représentations, des stéréotypes que l'on a des uns et des autres. Et ça, je crois que vraiment, la lutte contre les stéréotypes et dès le plus jeune âge, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose sur lequel il faut agir de façon à ce que, très rapidement, les petites filles, les petits garçons puissent envisager, en fait, des devenirs de façon plus égalitaire. Et ça, je crois que c'est vraiment, en fait, le cœur de la mission, c'est-à-dire arriver très rapidement à ce que les mentalités puissent évoluer. Et ça, ça passe aussi. Et ça passe, bien sûr, par faire évoluer les représentations, les stéréotypes. Et quand je dis ça, je dis aussi bien, donc, les représentations des femmes dans les médias, dans les médias quels qu'ils soient, hein, aussi bien donc télévisuels que presse écrite, la représentation des filles dans les livres, la place des femmes dans l'histoire de France, et sur des petites choses très simples en fait. Par exemple, moi j'ai regardé le nombre de rues qui portent le nom de femmes. Il est clair qu'il y a beaucoup plus de noms d'hommes qui sont donnés donc à des rues que de femmes. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au fait aussi, entre autres, hein, c'est un exemple, mais ça aboutit au fait que les femmes sont invisibles. C'est-à-dire que les filles et les garçons, quand ils grandissent, eh bien, ils habitent telle rue d'hommes, aviateurs, chercheurs, etc., poètes. Mais si vous voulez, les femmes sont invisibilisées dans l'espace public. Et je crois que le travail aussi doit se faire là, c'est-à-dire au maximum rendre les femmes de plus en plus visibles de façon à ce qu'elles puissent être du coup des références, des exemples, des modèles pour aussi bien les filles que les garçons.
Oui, alors il y a du travail, hein, parce que j'ai vu, je ne sais plus si c'est à Livron ou à Valence, il y avait des propositions de réflexion sur l'hypersexualisation des enfants. Je suppose que cette tendance ne vous plaît pas plus que ça.
Alors, le fait de réfléchir sur l'hypersexualisation des petites filles, parce que quand vous dites des enfants, c'est essentiellement en fait des petites filles. Bien sûr que c'est un sujet qui m'intéresse. Tout dépend de la façon effectivement dont on s'en empare. En fait, de façon claire, aujourd'hui, et là c'est un sujet que j'avais traité à Romans dans le cadre d'un apéro femmes, donc c'est une rencontre qui se déroule les mardis soirs à la MJC Robert Martin à Romans. Eh bien, nous avions effectivement travaillé sur l'hypersexualisation des petites filles. Quel est l'enjeu et quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut vraiment avoir en tête de façon très claire que lorsqu'on parle d'hypersexualisation des petites filles, en fait, on parle de pornographie. C'est-à-dire qu'on fait vraiment référence à des modèles pornographiques pour des petites filles qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas du tout ce qu'est la pornographie, et on les instrumentalise dans cette dimension-là. Donc il y a véritablement à se poser les questions de, j'ai envie de dire, à qui bénéficie le crime, hein, quand effectivement on met en place ce type de mise en scène, qu'est-ce qu'on veut véhiculer derrière ? C'est court hein, là pour aborder cette question-là, mais c'est vraiment une question d'importance. Alors, je dirais aussi, pour être très clair, que il faut bien différencier les concours de minimis hein, de l'hypersexualisation des petites filles. Pourquoi ? Parce que les concours de minimis, ce n'est qu'un des aspects qui est tout aussi impliquant que d'autres, mais ce n'est qu'un des aspects.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai vu un morceau de hip-hop qui a été fait aux États-Unis avec un petit garçon qui chantait une chanson de hip-hop. Le garçon devait avoir 5 à 6 ans et il avait des gestes explicitement sexuels avec des filles tout à fait formées. Et ce petit garçon, lui aussi, jouait un rôle sexuel qui n'était pas de son âge, en fait.
Ah oui. Alors, par rapport à ce que vous dites, je l'entends. Par contre, c'est vrai que dans 95% des cas, ce sont des petites filles. J'ai envie de dire que de la même façon que quand, effectivement, on parle de violence conjugale, dans 95% des cas, ce sont des femmes qui sont victimes et non pas des filles. Bien sûr que des situations de ce type existent et elles ne sont pas plus louables que si c'était des filles. Mais le fait est que la majorité des situations concernent des filles. Et vous voyez, par rapport à ce que vous dites sur cet exemple-là, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites qu'il y avait un petit garçon qui était entouré de femmes formées ou de jeunes femmes formées. Bien souvent, quand on parle, quand on fait la représentation des jeunes filles, on va dire hyper maquillées, hyper pornographiées en fait, hein, il est très rare qu'il y ait des hommes autour. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, oui.
En fait, donc on met en scène le petit garçon dans une espèce... Alors, j'ai pas vu le clip dont vous parlez, mais dans son rôle de domination masculine par rapport à des jeunes filles. Enfin, je sais pas, j'imagine que ça pourrait être ça. Quand une jeune fille est photographiée ou est mise en scène de façon pornographique, en fait, c'est pour être un objet sexuel. Vous voyez?
Tandis que le petit garçon en question, c'était déjà le caïd. Tout à fait.
Voilà, vous voyez toute la différence du traitement des uns et des autres. Oui, il y a beaucoup de travail.
Oui, il y a du travail. Marie-Madeleine Kölsch, désolé que le temps imparti soit si court parce qu'il faut que ça rentre dans une plage horaire qui est ce qu'elle est. Donc, je vous remercie de nous avoir donné toutes ces informations. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Et je vous remercie de continuer à nous interpeller pour faire passer les informations que vous avez envie de faire circuler.
Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.